Prions, s'il vous plaît. Notre Père, nous nous inclinons devant toi pour te demander que ta grâce soit sur nous ce matin encore et qu'on puisse être attentif à ta parole. Et on tremble parfois, Seigneur, devant cette tâche de proclamer ta parole. Quel privilège, mais quelle responsabilité. Seigneur, que nos cœurs soient attentifs, soient tendres et dociles et que cette nourriture céleste puisse vraiment pénétrer nos âmes et nous nourrir spirituellement, Seigneur, dans nos cœurs, parce que nous sommes des êtres maintenant destinés au ciel. Nous avons échappé à l'enfer par la grâce de Jésus-Christ, et nous sommes en route pour le ciel. Nous proclamons ton nom, Seigneur, et nous t'adorons. Merci pour ta grâce, ton pardon, pour ta bonté et ta fidélité. Gloire et louange te soient rendues. Amen. Ce matin, nous allons continuer ensemble l'étude sur l'évangile de Jean. Et avant d'aller dans le chapitre 11, qui est en fait le récit de la résurrection de Lazare, nous allons, pour nous permettre de garder le fil conducteur au travers de cette série sur les signes, les miracles de Jésus dans l'évangile de Jean, nous rappeler que notre thème cette année, au travers aussi de l'étude de l'évangile de Jean dans nos groupes de maison, c'est connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Pour cela, on a vu ensemble que connaître Jésus-Christ, on peut le connaître au travers des sept « Je suis », le pain de vie, la lumière du monde, la porte des brebis, le bon berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, nous allons regarder le chapitre 11 où Jésus-Christ proclame qu'il est la résurrection et la vie. Le faire connaître également, on a déjà regardé ensemble dans le chapitre 20 et versets 30 et 31 qui sont sous vos yeux. Jésus a fait connaître en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Et le mot grec ici pourrait être traduit par « signes » qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le désir de l'évangéliste Jean en écrivant son évangile, c'est que le monde croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'ils aient la vie éternelle. En fait, nous avons vu ensemble et nous avons commencé à regarder une façon de faire connaître et comprendre Jésus-Christ, c'est de regarder les sept miracles de l'évangile de Jean qui sont un signe. En fait, Jean considère ces miracles comme des signes parce que son but est d'attirer l'attention non pas sur les miracles comme tels, mais sur leur signification. Et nous avons mis l'accent sur la signification de ces miracles. On a déjà regardé ensemble donc le premier signe, le changement de l'eau en vin aux noces de Cana. On a regardé ensemble la guérison du fils de l'officier du roi à Capernaum. On a déjà regardé ensemble la guérison du paralytique à la piscine de Bethsaida à Jérusalem. On a regardé ensemble la multiplication des pains pour nourrir 5000 hommes près de la mer de Galilée. On a regardé ensemble que Jésus marche sur les eaux, sur les eaux de la mer de Galilée. On a regardé ensemble la guérison de l'aveugle né à Jérusalem. Et nous allons regarder ensemble ce matin, par la grâce de Dieu, la résurrection de Lazare à Béthanie. Quel contrat de regarder ensemble Jean chapitre 11. Je vous invite sans plus tarder à tourner dans vos Bibles à la page où se situe le Jean chapitre 11, le chapitre 11, et nous lisons à partir du verset 1. Il y avait un homme, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort. » mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Et à cause de vous, et afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oh oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient l'ayant vue, se levaient promptement et sortirent, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ? » ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire ainsi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croirons en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Si vous ne réfléchissez pas, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. On peut dire que le dernier miracle parmi les sept que Jean a voulu souligner est vraiment une manifestation et un événement culminant de la vie de Jésus-Christ, et aussi de cette manifestation de sa puissance parmi les disciples. En fait, ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ ressuscite un mort. Il y avait la fille de l'officier, il y avait la fille de Naïm, ou le fils de Naïm, qui avait déjà été ressuscité. Et les Juifs croyaient en la résurrection. Ils lisaient notamment en Daniel chapitre 12 et verset 2, qu'il y aurait ceux qui ressusciteraient et qui seraient glorifiés dans le ciel comme l'étoile brille dans le ciel. Et il y aurait aussi ceux qui seraient éternellement privés de Dieu. Les Juifs, en tout cas les pharisiens, croyaient en la résurrection, même s'ils croyaient que la résurrection des morts serait la reconstitution des molécules du corps, et donc le corps quelque part ressuscité ressemblerait au corps qui avait été sur terre. Alors que l'apôtre Paul nous enseigne en 1 Corinthiens chapitre 15 que le corps glorifié, le corps ressuscité, même s'il naît des cendres, sera un corps glorifié dans le ciel et qui brillera aussi, il le souligne, comme une étoile dans le ciel et dont la brillance sera proportionnelle à l'œuvre accomplie en Christ au travers du croyant. En fait, ce passage nous parle aussi de la question de la mort. La mort, en fait, dit la Bible, c'est un drame. C'est un drame qui est la conséquence du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la preuve que tous sont pécheurs, c'est que tous, un jour, nous allons mourir et que tous meurent. Depuis les siècles des siècles et des générations, nous mourrons, et ceux qui nous succèdent mourront aussi un jour. La mort s'est étendue à tous les hommes à cause du péché, même si la mort est venue et le péché d'un seul homme. La mort physique est la séparation de l'âme et du corps. Mais il y a une autre mort qui est encore plus terrible que la mort physique, qui est la séparation d'avec Dieu. C'est la mort spirituelle. Et un jour, la Bible dit que tous les morts ressusciteront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la mort éternelle. Déjà, il y a un fardeau qui pèse sur le cœur. Êtes-vous certain d'être en route pour le ciel? Êtes-vous certain que votre nom est inscrit sur le livre de la vie et que si vous deviez mourir aujourd'hui, Dieu vous laisserait entrer dans son ciel? La seule raison, la seule assurance du croyant concernant l'éternité, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est la seule réponse qu'il peut mentionner concernant son salut. C'est de se fixer à la croix, de regarder à la croix, là où Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité, il est vivant. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer. Il a vaincu celui qui avait la puissance de la mort, nous dit l'Épître aux Hébreux, le Satan, celui qui veut détruire. En fait, Jésus-Christ est celui qui est vivant. Il est la vie. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est vivant? Est-ce que vous croyez qu'il est en vie? qu'il est plein de vie, ressuscité, et qu'il est encore en train de se manifester sur cette terre. Gloire à son nom. Christ est vivant. Il vit. Nous allons regarder maintenant le texte à partir du verset 1, qui nous parle du contexte immédiat, qui est en fait la maladie de Lazare. Vous savez, lorsqu'on apprend que quelqu'un est malade et que peut-être que cette maladie va l'amener à la mort, bien souvent, nous sommes tristes. Nous sommes bien tristes. Et c'était le cas de ce qui se passait dans une famille, un foyer, où deux sœurs vivaient avec certainement un plus jeune frère, Lazare, qui était tombé malade et qui était, autant Marthe, Marie et Lazare, des amis de Jésus. C'est beau cela. Jésus, nous était dit, il aimait Lazare, il aimait Marie, il aimait Marthe. Est-ce que vous êtes un ami de Jésus? Est-ce que vous vous sentez aimé par Dieu? Oh, certainement, le diable, une de ses plus grandes ruses, c'est de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Mais Dieu est amour. Non seulement il est pardon, mais il est amour. Et il pardonne par amour, mais aussi il nous comble de ses bienfaits, de sa provision, de sa bonté, de sa miséricorde, parce que Dieu aime ses enfants. Ne doutez pas que Dieu vous aime. Et nous pouvons aller vers lui, exprimer nos fardeaux, nos peines, nos souffrances et même nos maladies, ou même apporter devant lui la requête de sa grâce envers un frère ou une sœur qui tomberait malade. En fait, ici, Jésus est avec ses disciples en Pérée, et je vais juste prendre le temps de vous montrer sur la carte un petit peu où est-ce que ça se situe. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais ici, Jésus est en Pérée, au Pérée, alors, vous ne devez pas voir parce que moi, je ne reviens pas ici. Alors, Béthanie est ici, je ne sais pas si vous voyez le point rouge, et entre Béthanie, qui est proche de Jérusalem, et Pérée, là où exerce un ministère, où exerce Jésus son ministère, il y a à peu près 8 à 9 heures de marche. Tout ça pour dire en fait que, effectivement, lorsque les amis de Marthe et Marie sont allés demander, informer Jésus de la maladie de Lazare, eh bien, il y avait 8 à 9 heures de marche. En fait, Jésus a constaté qu'il y avait 4 jours qui étaient passés depuis la mort de Lazare, qui avait été enterré dans un sépulcre. Et en fait, ça s'explique de la manière suivante. Le premier jour, les amis de Marthe et Marie sont allés informer Jésus. Ça a pris une journée. Lazare est mort le jour même. Jésus a décidé de rester 2 jours de plus, certainement bien occupé par son ministère en Pérée. Et puis, il a pris aussi un jour pour voyager et retourner en Judée, qui était dangereux pour lui. D'ailleurs, les disciples réagissent. Donc, ça fait 4 jours en tout. Donc, Lazare, lorsque Jésus se présente devant le tombeau, Lazare est vraiment enterré depuis 4 jours. Béthanie est une petite ville qui est située à peu près à 3 kilomètres de Jérusalem. Et donc, lorsque Jésus décide finalement de descendre, de retourner en Judée, qui est, n'est-ce pas, ça c'est la Pérée, ça c'est la Judée, Jérusalem est en Judée, il y a un risque. Il y a un risque parce qu'en fait, on lit, si vous tournez dans vos Bibles maintenant, juste avant, au chapitre 10, alors si je, chapitre 10, ouais, je vais le retrouver peut-être. Bon, j'ai oublié la référence, excusez-moi. Mais après, peut-être c'est au chapitre 9. Enfin, ceci dit, Jésus a quitté Jérusalem après avoir guéri l'aveugle-né, et l'évangéliste Jean ne mentionne pas différents événements, différents miracles que Jésus a fait en Pérée. J'en ai repéré dans l'évangile de Luc plusieurs, guérison d'une infirme le jour du sabbat, guérison d'un hydropigue et de 10 lépreux, et puis un nombre important de paraboles. Tout ça, c'est le ministère de Jésus mentionné par l'évangéliste Luc pendant qu'il est en Pérée. Donc les Juifs ont en mémoire le fait que Jésus a guéri l'aveugle-né. Et à partir de ce moment-là, les pharisiens ont le désir de faire mourir Jésus. Il y a une tension extrême dans l'évangile de Jean. Il y a un drame entre ce que Jésus fait, ce qu'il dit, et le résultat de ce qu'il fait et dit. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui croient de plus en plus et ceux qui ne croient pas et dont l'incrédulité augmente, les cœurs s'endurcissent au point de vouloir faire mourir Jésus. Et donc il y avait un vrai danger pour Jésus de retourner en Judée. C'est pour ça qu'il y a une certaine alarme, n'est-ce pas, des disciples lorsque Jésus leur mentionne qu'il va retourner en Judée, justement là où se situe Béthanie, là où est enterré Lazare. Un petit mot en introduction aussi pour dire que ici dans ce chapitre, il y a le mot « foi », 9 fois. Vous savez que dans l'évangile de Jean, c'est le mot clé, le mot grec, pisteuo, ça se trouve 98 fois. Ce n'est pas un nom, la foi, c'est le verbe croire, excusez, je vous dis le mot foi, mais c'est le mot croire qui est un verbe. Et en fait, la foi, ce n'est pas passif, c'est une action. C'est pour ça que l'évangéliste Jean souligne le verbe croire. Dieu veut que l'on croie en lui. Dieu veut qu'on exerce sa foi, qu'on place sa confiance en lui. Et j'espère qu'en lisant les Écritures, et même après cette prédication éventuellement, par ce message de la résurrection de Lazare, notre foi augmentera, notre confiance en Dieu augmentera par sa grâce. Alors Jésus ici proclame une chose extraordinaire, « Je suis la résurrection et la vie ». Ah, si le monde pouvait croire ça. Et si nous pouvions le croire de tout notre cœur, je suis la résurrection et la vie. Dans ce passage ici, il y a une situation qui est donnée, c'est Lazare qui est malade, l'alarme des disciples, n'est-ce pas, qui veut empêcher Jésus d'aller en Judée, et puis ce que fait Jésus de cette situation. Quel est son but? Ça, on trouve ça dans les 16 premiers versets. Et puis il y a finalement, le miracle qui commence à partir du verset 17, il y a une chronologie du miracle. D'abord la rencontre avec Marthe, la rencontre avec Marie, et finalement Jésus face à ses deux sœurs, avec qui dialogue de façon très tendre, parce qu'il les voit désespérées, attristées, en pleurs, et puis les disciples, et puis les Juifs qui pleurent avec Marthe et Marie, et puis Jésus face à Lazare, et surtout Jésus face à Dieu. Et finalement, à partir, je ne sais pas si on aura le temps trop de le développer, mais ce n'était pas le but de ce matin, versets 45 à 57, la réaction suite au miracle que fait Jésus envers Lazare. En fait, le but du passage ici, il est mentionné au verset 4. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et au verset 15, et à cause de vous, afin que vous croyiez. Jésus-Christ est en dépendance totale avec Dieu le Père. Jésus-Christ a fait de nombreux miracles. Mais il sait une chose, que plus il va faire des miracles, plus il va exercer la puissance de Dieu, sa puissance parmi les hommes, plus les hommes vont vouloir le rejeter et finalement le crucifier. Ici, il y a un drame dans ce chapitre qui peut-être n'apparaît pas en premier lieu, c'est que Jésus sait qu'en faisant ce miracle qui donne la vie, il accentue le chrono de sa mort. C'est un acte héroïque, j'allais dire. C'est un acte qui apporte la vie, mais qui en même temps va apporter sa mort. Et je dois dire une chose, que nous avons la vie par la mort de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à Dieu le Père d'avoir envoyé son Fils Jésus-Christ qui est mort afin que nous ayons la vie. Jésus-Christ était prêt à se sacrifier, à donner sa vie, et cela apparaît encore dans ce texte, parce qu'en ressuscitant Lazare, en faisant ce miracle extraordinaire en Judée, en Béthanie, tout proche de Jérusalem, où les Juifs le connaissaient, il allait accélérer le temps de sa mort. Ainsi Lazare tombe malade, et Jésus, qui est la résurrection et la vie, va le ressusciter afin que les hommes croient en lui, tout en acheminant son chemin, sa vie vers la crucifixion. On peut dire une chose, c'est que Jésus avait une relation particulière avec Marthe et Marie et Lazare, D'ailleurs, ça se trouve en Jean chapitre 12, notamment, versets 1 à 3, je vous le lis. Six jours avant la Pâque, Jésus arrivait à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. C'est formidable d'être servi à table par un ressuscité des morts. Écoutez, ça ne laisse pas indifférent. Marie y en prit un livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors Marie était une adoratrice contemplative et Marthe, une femme très pratique qui avait la foi. La preuve, on va regarder ensemble un peu plus en détail la confession de foi de Marthe face à Jésus à partir du verset 20. Mais Marthe et Marie étaient des sœurs bien-aimées, proches de Jésus. On voit dans d'autres textes que Jésus avait été à table avec elles et avait reproché un petit peu à Marthe, n'est-ce pas, ses activités, ses soucis, ses inquiétudes quotidiennes, alors que Marie était plutôt contemplative. Jésus veut qu'on soit ses amis. En Jean 15, il nous a dit que si on demeurait en lui, la parole en nous, on serait ses disciples et on serait ses amis. Et puis il y a dans cette relation extraordinaire d'amitié un drame qui survient. Lazare est mort et sa maladie est très sérieuse. Et Jésus est attentif à tout cela, bien sûr plein de compassion. Mais j'aimerais dire de suite qu'il y a un principe à retenir, c'est que Dieu permet que ses bien-aimés parfois souffrent et traversent la maladie. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant de Dieu qu'on est exempt de la maladie. Et ce n'est pas parce qu'on est un enfant de Dieu que parce qu'on est malade, Dieu a cessé de nous aimer. Mais tout simplement, Dieu permet des épreuves dans nos vies et la maladie en fait partie. Quelle est la réaction de Jésus face à cette maladie? Cette maladie n'est point à la mort. Jésus étant Dieu savait déjà que Lazare était mort. Il veut ici saisir l'occasion. En intimité avec Dieu le Père, il a la révélation de la volonté de Dieu le Père que Dieu va lui donner la puissance de ressusciter Lazare. Et déjà, étant en intimité, en communion avec Dieu le Père, il a la conviction que Dieu va ressusciter Lazare. Et c'est pour ça qu'il dit ceci, « Mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Il y a un amour extraordinaire entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu le Fils cherche constamment à glorifier Dieu le Père, à manifester sa puissance, afin que les hommes reconnaissent qui est Dieu et l'adorent et se soumettent à lui. Et Dieu le Père cherche à ce que les hommes glorifient Dieu le Fils qui est son envoyé. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer le Fils. On ne peut pas aimer le Fils sans aimer Dieu. On ne peut pas être sauvé et croire en Dieu sans passer par Jésus-Christ. Parce que Dieu le Père et Dieu le Fils ne font qu'un. Et dans cette intimité profonde, Christ a la conviction que Dieu va être glorifié et qu'ainsi, lui aussi sera glorifié, mais en Dieu, parce que Dieu est prêt à ressusciter Lazare. Le but de Jésus, c'est de ressusciter Lazare. Et les gens croient que, parce qu'il dit qu'il dort, alors que comme en sommeil, par la maladie, Jésus va le guérir. Mais Jésus sait déjà qu'il est mort. D'ailleurs, il le dit, Lazare est mort. La mort du croyant est considérée comme le sommeil du corps. Le croyant est en sommeil lorsqu'il meurt. Non, il est vivant plus que jamais. Comme a dit Moody un jour, lorsque vous lirez dans les journaux que je suis mort, ne le croyez pas. Je suis plus vivant que jamais. J'aime dire ça, vous le savez. Parce que c'est extraordinaire. Le croyant qui meurt, il est plus vivant que jamais. Il se déplace à la vitesse de la lumière parmi les étoiles. Je ne sais pas, il joue avec les astres. C'est merveilleux, cela. Moi, j'ai hâte. Il n'y aura plus de limitation de vitesse, hein, etc. Enfin, formidable. Mais c'est vrai que la Bible dit que le croyant est comme en sommeil parce qu'il attend la résurrection de son corps. Jésus-Christ, en ressuscitant, il est la garantie du salut de quiconque croit en lui, mais aussi la garantie de la résurrection de tous les morts, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Jésus-Christ va ressusciter tous les morts à la fin des temps. Et pour nous, ce sera le moment de l'enlèvement de l'Église. En fait, Jésus a cette vision de la résurrection et il dit aux disciples que même s'il emploie le mot d'or, que vraiment Lazare est mort. Pourquoi est-ce que les disciples, je reviens un petit peu en arrière, ont-ils peur que Jésus aille en Judée? C'est parce qu'il est recherché. Ils savent que les pharisiens ont des sentiments très opposés au ministère de Jésus, à Jésus lui-même. Et Jésus leur dit, leur fait cette réponse. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Je crois ici qu'on doit interpréter ce passage de la façon suivante. Tant que je suis, leur dit Jésus, à la lumière de la volonté de Dieu, et que je demeure dans la volonté de Dieu, je ne crains rien. Parce que c'est lui qui a fixé mon heure. C'est lui qui a fixé mon heure. Si je vis dans la lumière de Dieu le Père, comme on marche normalement en plein jour, alors je suis conduit par Dieu, je ne crains rien. Il y a une application ici dans la vie du croyant et du serviteur de Dieu. S'il est dans la volonté de Dieu, il ne doit rien craindre. Parce que, comme disait le psalmiste, mes destinées sont entre tes mains. Qui ne s'inquiète pas de l'avenir? Eh bien, on ne doit pas craindre l'avenir. Si on est dans la volonté de Dieu, on a l'assurance que Dieu nous conduit, que Jésus est le bon berger et qu'il prend soin de nous. Voilà le tableau en introduction de ce passage ici. Il y a cette merveilleuse rencontre à partir du verset 20, puisque Jésus retourne, n'est-ce pas, en Béthanie. Il y a cette merveilleuse rencontre de Jésus avec Marthe à quelques lieues de Béthanie. Marthe est allée vers Jésus. Il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Comme j'ai dit, Marthe croyait à la résurrection des morts. Mais elle a ici, non pas un reproche, mais un regret. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle avait la conviction que si Jésus avait été présent, il aurait guéri Lazare. Ce n'est pas un reproche, mais c'est un regret. Et Jésus lui dit, ben, « Ton frère ressuscitera, tu le sais. » Parce qu'elle savait Marthe, et elle croyait à la résurrection des morts. Déjà dans l'Ancien Testament, Élie avait ressuscité le fils de la veuve. Déjà dans l'Ancien Testament, Élisée avait ressuscité aussi l'enfant de la veuve. Et on dit, comme Élisée a fait le double de miracle d'Élie, lorsqu'on a enterré un mort à la sépulture d'Élisée, les os d'Élisée, au contact de ce mort, ont ressuscité le mort. Et les gens savaient et croyaient à la résurrection. Et Jésus ici affirme une chose extraordinaire. J'espère qu'on le croit de tout notre cœur ce matin. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Après avoir déjà dit dans l'évangile de Jean, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger. Maintenant il dit, je suis la résurrection et la vie. Savez-vous quoi? Jésus est là comme personne divine, prêt à combler tous nos besoins. Nous avons, nous, besoin de croire que la réponse à nos problèmes, c'est Jésus, c'est une personne. Nous devons aller vers lui et croire de tout notre cœur, comme Marthe ici, qui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. » Vous savez, je pense que le Seigneur certainement nous visite les uns et les autres dans nos cultes personnels, dans notre vie de prière. Mais il me semble que le Seigneur parle à mon cœur depuis quelques semaines et me dit, « Mais crois en moi, adore-moi, connais-moi, prends soin de connaître Dieu. » C'est vrai, on est tellement actif, tellement en train de faire et faire des choses et s'agiter à droite à gauche. Mais passons du temps avec le Seigneur, parce qu'il est la vraie réponse à nos besoins. Nous pouvons placer toute notre confiance en lui. Et vous savez, lorsqu'il a dit « Je suis la résurrection et la vie », il l'a prouvé en ressuscitant Lazare. Jésus prouve ce qu'il est par ce qu'il fait. Il prouve ce qu'il dit par ce qu'il fait. Est-ce que nous le croyons de tout notre cœur, que nous avons tout pleinement en lui, Jésus-Christ, tout pleinement? Vous avez un besoin ce matin? Vous avez une difficulté? Peut-être quelque chose vient à votre esprit. Sachez une chose, vous avez tout pleinement en Christ. C'est extraordinaire cela. Vous craignez la mort? Allez, je vous le dis ce matin. J'ai visité mon papa, 88 ans. Son frère est malade, 84 ans. Une maladie très grave. Il a enterré depuis je ne sais plus combien d'années ses amis. Et comme il n'a pas la foi encore, malgré que je prie pour lui depuis des années, j'ai compris qu'il avait peur de mourir. Peur de mourir. Vous savez ce qu'a dit Jung, un disciple de Freud? Il a dit « L'homme est prêt à vivre que lorsqu'il est prêt à mourir. » Il est prouvé en psychologie que l'homme a pris une trentaine d'années à peur de mourir. La question de la mort est une question fondamentale qu'il faut résoudre. Mais quel est celui qui va résoudre le problème de la mort? Ce grand passage, c'est Jésus-Christ. Parce qu'après la mort, il y a une destinée éternelle, avec ou sans Dieu. Et la seule réponse, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Krishna, ce n'est pas je ne sais pas quel livre dit saint ou sacré. C'est la Bible qui donne la réponse. Parce que la Bible, le seul livre qui présente celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » et qui l'a prouvé parce qu'il est ressuscité des morts. Amen. Amen. Ah, il est ressuscité des morts. J'allais faire comme les ch'tis. Hein? Il est ressuscité des morts. Amen. Il est vivant, notre Dieu. Et puis, il y a Marie qui vient. Pourquoi Jésus va-t-il dire à Marthe « Va chercher ta sœur, mais qu'elle vienne en secret. » Vous avez pensé, oui, je me suis dit, pourquoi il dit ça, Jésus, à Marie? C'est bizarre. C'est bizarre. Mais parce qu'il y a une délicatesse extraordinaire ici, en Jésus. Face à la tristesse de Marthe et Marie, il les aborde l'une après l'autre avec leurs caractères différents. Marthe, assez spontanée, pratico-pratique, on va dire, et très agitée, mais active. Et Marie, complètement accablée, qui est centrée complètement sur sa tristesse et sur le deuil de la séparation avec son frère. Et Jésus veut les amener toutes les deux à croire avant de voir. On peut retenir ça, à croire avant de voir. Des fois, il faut voir pour croire. Mais là, Jésus amène Marthe et Marie à croire avant de voir. C'est extraordinaire cela. Mais il les amène progressivement au fait du miracle, afin que leur foi se développe et qu'elle soit vraiment fortifiée, et avec elle, évidemment, tous les disciples et tous ceux qui seraient là. Il y a une façon avec laquelle il aborde Marie qui est différente de celle qu'avec Marthe. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Moi, je trouve extraordinaire la liberté qu'a Marie de parler à Jésus. Parfois, on n'ose pas parler comme ça à Jésus avec tant de confiance et puis de liberté. Est-ce que vraiment nous allons vers Jésus pour lui faire part de nos peines, de nos difficultés, de nos souffrances? Marie dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et parfois, on pense cela, mais sans le dire au Seigneur. « Seigneur, pourquoi tu permets ça? Si tu avais été là, ce ne serait pas arrivé. » Pourtant, il était là, le Seigneur. Il avait été là. Et Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, fut émue, frémit en son esprit, fut tout émue. Pourquoi Jésus est tant ému? Il est ému peut-être en pensant à la mort, à la puissance de la mort, à Satan, qui a cette puissance sur cette terre. Il est peut-être ému parce qu'en sachant ce qu'il va faire, il pense à sa propre mort et le prix qu'il va devoir payer. Il est certainement ému aussi en voyant ceux qui pleurent, qui accompagnent Marie dans son deuil. Et Jésus, au verset 35, et c'est le plus petit verset du Nouveau Testament, il nous était dit, Jésus pleura, manifestant ce que Jean disait dans son prologue, et la parole a été faite chair. Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et ici, il manifeste son humanité profonde en participant, en manifestant sa peine par rapport au deuil, à cette séparation avec Lazare. il y a quelques moqueurs, ces juifs. On peut penser que ces juifs-là qui disent, s'il avait été là, lui qui avait guéri l'aveugle, ben, ils ont en mémoire ce miracle qui a fait parler tout Jérusalem à la Gazette un matin et toute une semaine et tout un mois. Il était écrit, n'est-ce pas? Mais qui est cet homme qui a guéri l'aveugle né? Tout Jérusalem savait cela. Le bouche à oreille fonctionnait rapidement. Excusez, j'ai fait une petite blague, c'était le téléphone arabe, même si c'était les juifs. Tout le monde savait ça, Jérusalem. Il dit ceci à Marthe, Seigneur, Marthe lui dit plutôt à Jésus, mais Seigneur, il sent déjà qu'il y a 4 jours qu'il est là. Vous savez, Marthe était très pratique et dit, mais quel choc! Jésus se présente devant le sépulcre et elle a compris, Marthe, ce qui allait se passer. Parce qu'il a demandé Jésus d'enlever la pierre. Elle dit, ouais, mais on va le voir. Ça fait 4 jours qu'il est là. Quel choc! Quel choc! J'aurais pas dû vous faire des blagues parce que là, je perds le sérieux de mon message, non? Mais revenons à cela. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quelle est l'image qu'ils avaient devant eux après avoir enlevé la pierre? Ils pouvaient penser voir un mort qui déjà sentait mauvais. À cette époque-là, vu la chaleur du climat, en Palestine, on enterrait le mort le jour même. Après 4 jours, il fallait s'attendre à une image terrible. Et Jésus, face à cette image, dit à Marie, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il faut croire pour voir. Il faut croire pour aller au ciel, pour entrer dans la gloire de Dieu. Et là, Jésus prie. C'est extraordinaire cela. Il est en train de montrer que c'est sous la volonté de Dieu le Père que ce miracle va avoir lieu. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le même but, pour que les gens croient. Il faut que les gens croient que c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu le Père, qu'il est Dieu fait homme, qu'il est la parole incarnée, qu'il est Dieu incarné et qu'il vient du Père et que ce qu'il fait est dans la volonté de Dieu le Père et de révéler le Dieu le Père. Il est complètement soumis. Il sait déjà que Dieu l'a exaucé. Il sait déjà que Dieu va l'accomplir. Et c'est là où il crie d'une voix forte, Lazare, et littéralement dans le grec, c'est « Sors de là !» Ils ont ouvert la pierre, il y a un trou, ils pensent qu'il y a un mort depuis 4 jours dont la chair s'est corrompue, et là Jésus crie, Lazare, sors de là. Et là, Lazare sort. Imaginez l'image et le spectacle. Il y a des spectacles qu'on voit à la télévision qui semblent extraordinaires, mais imaginez Lazare qui sort du sépulcre, certainement avec des bandes autour des jambes, et puis un linge sur le visage, il se présente, il sort du sépulcre, il dit, c'est moi. Non. Imaginez le spectacle, c'est extraordinaire cela. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Il y a peut-être une illustration ici que je voudrais donner en passant, c'est que quand Dieu nous sauve, on sort de nos ténèbres, on sort de notre sépulcre, de nos chaînes. Mais quelque part, on a besoin d'aide des autres encore. Il faut enlever les bandelettes, il faut enlever. Peut-être que nous devons apprendre aussi que d'autres sont envoyés par Dieu pour servir à notre totale délivrance. Parfois, Dieu permet que dans nos vies, on reconnaît qu'il y a encore des choses qui doivent être enlevées, des choses qui nous gênent. Et les autres, même si on est ressuscité avec Christ, assis dans les lieux célestes en Christ, on a besoin encore des autres pour être complètement libre, comme Lazare avait besoin d'être libre encore d'enlever toutes ses bandelettes, etc. Enfin, c'est une image, une illustration possible, je pense. Quelle glorieuse chose! Quelle glorieuse chose! Alors, il y a ceux qui ont vu et qui croient. Il y a ceux qui ont vu, verset 45 à verset 57, il y a ceux qui ont vu et qui vont voir les pharisiens pour dénoncer Jésus. Alors le Sanhédrin se rassemble, ils ont peur de perdre leur pouvoir. Il y a la prophétie de Caïphe, la décision de faire mourir Jésus. Et un peu plus loin, Jean chapitre 12, il y a même la décision de faire mourir Lazare. Et puis Jésus, lui, est obligé d'aller se retirer à Éphraïm. Et puis, vu tout ce qui s'est passé, les pèlerins nombreux qui arrivent à Pâques, après quelques jours, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent Jésus, qui devient de plus en plus populaire. Alors, pour finir et conclure, disons ceci, si vous voulez bien. Cet événement est une merveilleuse illustration de la façon avec laquelle le Fils de Dieu donne la vie aux hommes. Cela ne peut pas nous laisser indifférents. Jésus aime, Jésus est amour, il est plein de compassion pour chacun de nous. Il nous connaît, il connaît nos peines, nos douleurs, il est prêt à nous consoler et à nous donner sa vie en son nom. Jésus est vivant, il est ressuscité. Il est écrit que, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. Dieu est tout puissant, et parce qu'il est tout puissant, il a ressuscité Jésus, et parce que Jésus est tout puissant, il peut tout faire dans notre vie. Face à la mort, nous pouvons croire en Jésus. Et la Bible dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus va ressusciter tous les morts à la fin des temps. Et j'aimerais vous laisser une question sur le plan spirituel. Êtes-vous passé de la mort à la vie? Êtes-vous assis avec Christ dans les lieux célestes parce que ressuscité avec lui? Avez-vous votre nom inscrit dans le livre de la vie? Êtes-vous certain d'aller au ciel? Parce que Christ veut vous donner la vie éternelle. Nous avons une maladie en nous qui amène à la mort, qui est beaucoup plus grave que la maladie qui a amené Lazare à la mort physique. Il y a une maladie en nous qui est la maladie du péché, qui nous amène à la mort physique, mais aussi à la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Avez-vous placé votre confiance en lui pour être sauvé? Et nous, les enfants de Dieu, un dernier mot, si vous me permettez. Est-ce que vraiment vous croyez à la toute-puissance de Jésus dans votre vie? Celui-même qui a crié, Lazare, sort. Et quelqu'un a dit, s'il n'avait pas dit Lazare, tous les morts auraient ressuscité. Tellement sa force dans sa voix a fait autorité. Est-ce que vraiment, nous les enfants de Dieu, nous croyons à la toute-puissance de Jésus dans nos vies? Apportez-lui votre fardeau. Apportez-lui votre soif, votre faim spirituelle. Apportons-lui nos besoins. Et croyons que celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie » peut combler tous nos besoins. Mais aussi, réjouissons-nous, parce qu'un jour, notre corps, au son de la trompette, à la voix de l'archange, notre corps va ressusciter de façon glorieuse lors de l'enlèvement de l'Église. Quelle merveilleuse chose! Plus de pleurs, plus de larmes, plus de vieillissement, plus de fatigue, la gloire pour toujours. Parce qu'il a promis le Seigneur de nous ressusciter. Il est la résurrection et la vie. Quelle garantie, frères et sœurs! Soyons remplis de joie ce matin et partons de ce culte avec cette joie du Seigneur qu'il est avec nous. Prions. Notre Père céleste, merci de ton amour, merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Tu vois combien, Seigneur, ta parole est riche. Mon Père, complète ce tableau dans nos vies, de la profondeur de ta parole et de ce passage, et que nous puissions, Seigneur, nous lever ensemble et te glorifier en croyant en ta toute-puissance. Lazare sort de là, frère ou sœur. Mon fils, ma fille, nous dit Jésus, sort de là. Des ténèbres, viens à la lumière. Au nom de Christ. Amen.